France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Xavier Harel, bonjour.
Bonjour.
Avec Thomas Lafarge, vous avez réalisé un documentaire sur la banque BNP Paribas qui sera diffusé jeudi prochain sur France 3. Alors 10 ans après la chute de Lehman Brothers, vous revisitez les zones d'ombre de cette banque, de ce géant. Et alors ce qui est frappant, enfin moi c'est la première chose qui m'a frappé dans votre film, c'est que on voit bien finalement que chaque fois qu'il y a une crise, eh ben la banque, loin de s'affaiblir, elle va se renforcer.
Oui, c'est l'un des paradoxes de cette grande crise financière, c'est que au moment de la crise financière, il y a une défiance absolument incroyable à l'égard des banques et une fois de plus, et comme à chaque fois, eh bien, c'est l'État, c'est le contribuable qui vient à la rescousse des banques et donc effectivement qui a attribué une ligne de crédit absolument gigantesque aux banques françaises et pour la toute première BNP Paribas.
Alors c'est 20 milliards pour l'ensemble et 5 milliards pour la BNP et c'est ce qui lui permet donc de grossir quelque part et de racheter donc Fortis, cette grande banque belge.
Tout à fait. Fortis qui connaît une crise de liquidité très importante pendant la crise, elle s'était très engagée sur les subprimes aussi. Et surtout, BNP, en rachetant Fortis, eh bien, a fait une très très bonne affaire. C'est-à-dire qu'elle l'a acheté au prix de la casse, mais elle a mis la main sur 100 milliards d'euros de dépôts belges. Il faut voir que Fortis, c'était le joyau bancaire belge avec énormément de dépôts. Les Belges économisent beaucoup plus que les Français, beaucoup plus que les Allemands. Et donc, ça a permis de renforcer, paradoxalement, la solidité de BNP Paribas.
La consolider, finalement, BNP a profité, entre guillemets, de la crise. Alors pour la crise grecque, c'est autre chose, mais là aussi, la BNP va bien s'en sortir parce que elle a contracté une grande dette vis-à-vis de la Grèce et peu à peu, elle va récupérer son argent grâce là aussi à l'injection d'argent public dans le pays.
Oui, alors c'est une histoire très paradoxale. Si vous êtes face à un ménage qui a un problème de surendettement, eh bien vous n'allez pas rajouter de l'endettement pour régler le problème du surendettement. Eh bien pourtant, c'est ce qu'on a fait avec la Grèce, c'est-à-dire qu'on a fait un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros dont la principale ambition eh bien était de sauver les banques et de permettre aux banques d'être remboursées sans quoi elles auraient fait faillite.
Alors là, on vient d'évoquer deux crises qui sont connues. Il y en a une autre que vous évoquez qui est beaucoup moins connue, c'est celle de 2011. Et vous dites qu'en 2011, BNP Paribas était au bord de la faillite.
Effectivement, alors c'est une crise qui est passée relativement inaperçue pour le grand public. Hein. En 2011, il y a une crise qu'on a appelée la crise du dollar, c'est-à-dire que d'un seul coup, bien pour les banques européennes, il est devenu extrêmement difficile de se financer au dollar. Et d'un seul coup, eh bien, le robinet s'est fermé parce que la question de savoir si les banques européennes allaient faire faillite ou non s'est posée pour les banques américaines. Le robinet s'est fermé et BNP Paribas, qui travaille énormément sur les marchés financiers, mais aussi sur les financements des matières premières, le pétrole, le cuivre, eh bien, s'est retrouvé $100. Et ce jour-là, enfin ces jours-là, ça a duré une année entière, la situation a été extrêmement critique pour BNP Paribas et on a eu, effectivement, on a des témoignages au sein de la banque nous expliquant que la banque a bien failli faire faillite.
Pourquoi on l'a pas su ?
Parce qu'une banque, ça fonctionne sur le principe de la confiance. Et si la confiance est perdue,
il y a un effet cascade,
les clients risquent de retirer leurs fonds, leurs dépôts, et là vous entraînez la faillite d'une banque. Il faut savoir qu'une banque c'est un château de cartes. Hein. C'est une banque c'est pour 100 milliards prêtés, eh bien il n'y a que quelques milliards dans la banque. Hein. Et donc si la confiance est rompue, donc une banque est tout le temps en train quelque part de maquiller sa situation véritable. Et cette affaire de crise du dollar, eh bien elle était un peu connue d'un public spécialisé, mais là on a vraiment des témoignages de premier rang.
Alors autre chose, vous avez également rencontré un ex-banquier suisse qui vous raconte ce qu'étaient les pratiques de l'époque chez lui, c'est-à-dire que la loi interdit qu'on aille rabattre, chercher des clients à l'étranger pour leur vendre des produits financiers. Et lui, il le faisait, il allait en Italie chercher des clients qui venaient ensuite en Suisse. Et ce qu'on comprend dans votre film, c'est que à Paris, on le savait.
Nous avons trouvé effectivement un ancien gérant de fortune de la banque qui nous explique quelles étaient les méthodes de la banque dans les années 2000 et 2010 et qui explique comment ils allaient rabattre des clients, notamment en Italie, et comment le rachat de BNL, une banque italienne, par BNP Paribas est devenu un levier énorme pour la banque pour faire remonter des clients en Suisse.
Oui, ce que vous raconte votre témoin, c'est que on occupait du coup les bureaux de cette banque pour aller faire notre petit business en Italie.
Tout à fait. Et d'un seul coup, c'est plusieurs millions de clients italiens qui potentiellement pouvaient devenir des clients de BNP Paribas Suisse.
Voilà, et puis on ne peut pas ne pas parler non plus de cette amende de 6,6 milliards d'euros qui a été infligée à la BNP par la justice américaine. Et vous avez enquêté sur les dessous de cette amende.
Oui, tout à fait. Alors, amende qui avait été imposée à la BNP Paribas pour avoir violé les embargos sur l'Iran, Cuba et surtout le Soudan. Et donc on s'est vraiment intéressé à la question du Soudan parce que c'est finalement la partie la plus grave, puisque BNP Paribas a financé pendant des années eh bien un régime qualifié de génocidaire par les Nations Unies, et que c'était la seule banque qui acceptait de financer les exportations de pétrole du Soudan, qui a découvert beaucoup de pétrole au milieu des années 90, et sans lequel, eh bien, le régime d'Omar el-Béchir n'aurait pas pu s'équiper militairement. Il faut voir que le Soudan est un pays très pauvre, qui n'a pas accès aux marchés financiers étrangers, et la seule banque qui a accepté jusqu'au bout de financer les exportations de pétrole du Soudan, eh bien, c'est la BNP Paribas. Et pour ce faire, BNP Paribas, eh bien, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour cacher ces opérations, créant des sociétés offshore, maquillant les bénéficiaires des opérations financières, et ces opérations portent sur des dizaines de milliards de dollars.
Puis il y a une anecdote que vous racontez, c'est en 2006, Washington donc prévient les banques françaises en disant attention, si vous continuez, donc BNP, ça va mal se passer. Et Michel Pébrot aurait refusé de rencontrer le représentant de Washington qui vient à Paris.
Tout à fait. Stuart Levy, donc, qui était sous-secrétaire au Trésor à l'époque, fait un peu la tournée européenne pour prévenir les banques que les États-Unis sont sérieux sur le respect de cet embargo financier. Et donc, décide de rencontrer BNP Paribas. Et effectivement, Michel Pébrot refuse de s'y rendre, considérant que ce n'est pas un sous-secrétaire d'État de lui expliquer ce qu'il doit faire pour sa banque.
Personne ne vous a répondu dans la haute hiérarchie de la banque, ni Michel Pébrot, ni son successeur.
Écoutez, alors nous avons sollicité à plusieurs reprises. Hein. J'ai moi-même rencontré la direction de la communication de la banque. Je leur ai expliqué quel était le projet du film. Malheureusement, aucun responsable ancien ou actuel n'a souhaité répondre à nos questions.
Bien, merci Xavier Harel. Je rappelle que votre documentaire « Dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne », c'est son titre, sera donc diffusé jeudi prochain sur France 3. Faudra se coucher un peu tard quand même, puisque ce sera précisément à 23h35.